I'm turning today to Paul's letter to the Ephesians, chapter 5 and verse 8.
Je vous invite à voir la parole de Dieu aujourd'hui dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 5 et au verset 8. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Car vous étiez autrefois ténèbres, mais à présent, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Et le sujet de notre méditation, c'est marcher dans la lumière et pour la lumière. Et ceci est démontré dans ces versets qui sont là devant nous. Nous allons être rapides pour considérer ce texte et en arriver aux versets 15 et 16. Et nous ferons une pause à ce moment-là. Ici, au verset 8, « Car vous étiez autrefois ténèbres, mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Mon premier point, c'est les croyants qui démontrent la lumière par leur vie. Le passage qui est là devant nous est structuré d'une manière très simple. C'est un passage très profond, mais la structure du passage et les différents arguments, les pensées sont très clairs et bien organisés. Dans ce verset 8, c'est « marcher comme des enfants de lumière », comme au verset 2, « marcher dans l'amour ». Marcher, j'aimerais souligner que ce terme « marcher » est important dans tout ce passage. Au verset 8, à nouveau, et au verset 15, l'analogie est encore là. Prenez donc garde à vous conduire avec circonspection ou à marcher avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des personnes sages. C'est là l'image de la marche chrétienne, une marche qui est constante, qui est ferme, jour après jour, non pas des pics d'activité, d'enthousiasme, et puis plus rien, non, une marche constante. Et cette marche est caractérisée par plusieurs choses en particulier. Tout d'abord, ceci démontre la lumière. Vous étiez autrefois ténèbres. Ténèbres, comme vous le savez, ceci indique l'ignorance spirituelle et l'absence de vie spirituelle. L'âme qui est inerte, qui est endormie dans le péché sous la condamnation, gouvernée par le péché, vous étiez autrefois ténèbres. Mais à présent, après la conversion, après cette grande œuvre de Dieu de régénération qui s'est produite, mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur, lumière dans le sens du fait d'être pardonné, purifié, de recevoir une compréhension, l'émancipation de votre esprit, de votre compréhension, comprendre la parole et discerner les événements, le temps, en possédant le message de la lumière, de la vie, de la puissance. Mais à présent, vous êtes lumière dans le Seigneur, non pas par ce que vous avez fait, bien évidemment, mais cette vie qui a été donnée par Christ pour vous, lui qui a offert sa vie à la croix du calvaire dans sa mort expiatoire. Ainsi, le commandement est celui-ci, marchez comme des enfants de lumière. Vous êtes différents, vous êtes des gens uniques, particuliers, distincts. Marchez comme ceux qui doivent démontrer la lumière que vous avez reçue. Et c'est là mon premier point, très bref. Vous avez expérimenté la puissance de régénération, l'illumination du Saint-Esprit, la conviction du péché, le grand besoin de votre âme. Ainsi, vous avez été amené à la repentance, à la foi, à la lumière, à la vie, à la compréhension. À présent, vous devez démontrer ceci à ceux qui vous entourent, que vous avez un nouveau but dans votre vie et de nouveaux critères moraux, une nouvelle destinée, un nouveau chemin. Et au verset 9, car le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La bonté, l'amour, la bonté doit émaner de nous. Et la miséricorde envers les autres, la compassion, ceci devrait être une caractéristique dans notre vie. Les gens devraient savoir que ceci est dans notre cœur, dans notre famille, à notre travail, pour démontrer la bonté de Dieu qui nous a été donnée. Et nous transmettons ces choses. La justice, ceci c'est honorer la loi morale de Dieu, les critères moraux de Dieu, des gens intègres entièrement. Et la vérité, qui se réfère ici, non pas seulement à l'honnêteté, mais à la sincérité. Vous êtes connus comme étant des gens sincères, de part en part. Car le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. C'est un verset glorieux. Ceci veut dire approuver, démontrer en d'autres termes, pour nous-mêmes et à ceux qui sont autour de nous, qu'une vie en se confiant dans le Seigneur nous donne une bénédiction merveilleuse. Et nous expérimentons ceci dans notre vie, dans des moments où nous sommes insouciants et où nous errons, nous sommes dans la difficulté. Et ces moments où nous sommes fidèles, consciencieux, nous cherchons à marcher dans la justice, à nous tenir fidèlement pour lui, alors nous sommes bénis d'une manière remarquable. Nous expérimentons ceci. Ceci est une démonstration, c'est là le thème de ces versets. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, une vie qui répond à sa grâce. C'est là la première partie dans ce passage qui parle de la marche de la vie chrétienne. Et nous en arrivons au verset 11, qui démontre également ceci. En se dissociant de mauvaises choses et ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais bien plutôt condamnez-les. Et c'est là que une grande partie du monde évangélique qui croit dans les Écritures, dans la parole de Dieu, dans la mort expiatoire de Christ, dans l'Évangile, c'est là le point où beaucoup d'évangéliques trébuchent. Ils ne voient pas le problème dans le fait de vivre une vie de bonté, de justice, de vérité. Dans le principe même, ils comprennent que c'est là notre responsabilité. Mais ce qu'ils n'acceptent pas, c'est ce qui vient ici. Ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. Je ne vais pas mentionner l'auteur de ce livre. C'était soi-disant un auteur qui persuadait les chrétiens, qui les enseignait de comment faire l'Église dans la société présente, selon ses propres paroles. Il disait « Nous devons changer la manière de faire ». Et nous devons aller avec nos voisins au cinéma pour voir des films. Vous devez aller à leurs événements, à leurs fêtes et faire toutes les choses qu'ils font. Vous devez aller au pub, au bistrot avec eux et vous devez être avec eux et partager leur style de vie. Et là seulement, vous pouvez avoir leur respect. Et c'est là que certaines personnes, même qui se disent chrétiens, sont dans l'erreur de nos jours. Ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres. La nécessité de se dissocier des choses qui sont clairement mondaines ou qui sont péchés ou qui sont matérialisme et qui font partie des soucis de ce monde. Ceci fait partie de notre démonstration de la vie de Dieu, c'est d'être séparé de ces choses, non pas dans l'hostilité, non pas être dur, non pas être orgueilleux, fier, et dénigrer les autres, mais d'être cependant séparés. C'est là que le monde évangélique a erré de nos jours et est allé complètement dans le mauvais chemin, en désobéissant aux règles de l'Écriture, et ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais bien plutôt condamnez-les. Et nous allons examiner ceci pendant quelques minutes. Ne soyez pas attirés par les choses de ce monde, par les activités de ce monde, par les calomnies, les médisances de ce monde, par les fêtes, par les péchés de ce monde. Ne prenez aucune part, c'est n'ayez aucune communion avec ces choses, n'ayez pas de communion fraternelle, ne partagez rien avec ces choses. Nous sommes distincts et nous amenons les hommes et les femmes, les âmes perdues, hors du monde, non pas dans le monde ou plus profondément dans le monde. C'est là la grande erreur du monde évangélique moderne en tant d'aspects. Ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ceci s'applique au niveau de l'Église. Si des églises enseignent une théologie libérale, fausse, une théologie critique qui ne croit pas dans l'inspiration de la parole de Dieu dans tout son sens, plein, entier, parfait, dans la doctrine de la Bible, dans la mort expiatoire de Christ, etc. Nous ne pouvons pas œuvrer avec ces églises. Ceci s'applique dans les méthodes également, dans nos méthodes pour gagner les âmes perdues. Nous ne prenons pas des méthodes de péché mondaines dans nos célébrations, dans notre cercle familial. Au travail, il y a des choses que nous évitons. Nous ne prenons pas part à ces choses, à ces œuvres infructueuses qui appartiennent au péché, au monde, à la condamnation, aux ténèbres. Mais à présent, un point un peu plus positif, mais bien plutôt condamnez-les. C'est un terme très intéressant dans le grec, mais bien plutôt condamnez-les. Ce terme traduit par condamnez-les signifie ceci. Amenez les choses cachées à la lumière. C'est là ce terme grec, le sens de ce terme, qui est souvent traduit par condamner ou reprendre ou confronter est un peu mieux. Mais c'est amener à la lumière des choses cachées. Voici le sens de ceci. Quand j'étais mondain et pécheur contre Dieu, nous sommes toujours pécheurs contre Dieu, mais vous savez ce que je veux dire, quand j'étais opposé à Dieu, je ne réalisais pas que j'étais un pécheur condamné. Je savais que je faisais des choses mauvaises, mais je ne réalisais pas la profondeur de mon péché et de ma condamnation et ma condition perdue devant Dieu. Je ne réalisais pas que cette chose et cette autre chose que je faisais était une offense profonde contre Dieu. Ce terme grec « condamné » signifie « amener à la lumière ces choses cachées qui sont faites pour qu'ils puissent comprendre ». Et j'aimerais donner un exemple de ceci. Dans les écrits de l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 7, j'aimerais lire un passage à partir du verset 7. « Que dirons-nous donc ? La loi est-elle la cause du péché ? Nullement. Au contraire, écoutez ceci, « je n'ai connu le péché que par la loi. » Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras point ». Que dit l'apôtre Paul ? Il ne savait pas, en tant que jeune pharisien, plein d'ambition, plein de convoitise, en voulant être membre de la hiérarchie juive, en ayant tant d'ambition d'être membre du Sanhédrin juif, en voulant être un enseignant juif bien connu, en voulant être connu partout dans tout le pays pour son expertise, pour sa doctrine, pour ses accomplissements. Il ne savait pas que ceci c'était la convoitise, que ceci était tout pour lui. Peut-être qu'il avait d'autres convoitises également. Peut-être qu'il voulait également les richesses que les pharisiens avaient. Il se faisait beaucoup d'argent, ces enseignants juifs. Peut-être qu'il voulait leur luxe, leur grande maison, leur confort. Mais il dit, je n'aurais pas su que j'étais plein de convoitises. Mais un jour, Dieu a parlé à mon cœur par la loi, tu ne convoiteras point. Et j'ai réalisé que ceci était une grande offense contre Dieu. Dieu a amené les choses cachées à la lumière, la convoitise de son cœur. Mais le péché, prenant occasion du commandement, a produit en moi toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. J'étais en vie, sans la loi, avant que la loi ne parle à mon cœur. Mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie. J'ai réalisé que j'étais une personne pleine de convoitises, un pécheur, et je suis mort. J'ai réalisé que j'étais mort, condamné. Sans espoir, sans Dieu, sans le ciel. Et il s'est trouvé que le commandement qui devait me donner la vie m'a donné la mort. Le commandement a dû m'humilier avant que je ne puisse trouver Christ, que je ne puisse trouver la vie. Ainsi, l'apôtre Paul explique ces choses, exactement ce qui s'est passé dans sa vie. Et c'est également dans l'évangile de Jean, dans Jean chapitre 16, versets 7 et 8. Quand Christ dit aux disciples « Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra point à vous, et si je m'en vais, je vous l'enverrai, le Saint-Esprit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché. Il va amener à la lumière dans leur cœur leurs péchés cachés. Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. » Et j'en reviens à Éphésiens chapitre 5, au verset 11, « Et ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ne vous rassemblez pas, ne vous joignez pas avec ces gens dans le péché, mais bien plutôt condamnez-les, amenez les péchés à la lumière, C'est ainsi que Dieu œuvre. Et ensuite au verset 12. Car il est même honteux de dire ce que ces gens font en secret. Ceci est peut-être un peu plus difficile à comprendre. Ce sont des versets d'instruction extraordinaires. Le verset 12, vous devez le prendre dans son sens évident pour commencer, parce que c'est vrai. Il est même honteux, c'est une chose honteuse, même de dire ce que ces gens font en secret, d'en parler, ceux qui sont dans le péché. Et c'était là nous, un jour, dans le passé, nous n'aimons pas en parler parce que c'est honteux. C'est une offense contre Dieu, plein de souillures. Nous n'allons pas en parler. Le sens de ce passage, en premier plan, est bon. Mais si vous prenez le verset 12 avec le verset 13, le terme « honte » a un sens plus profond. Écoutez ceci, car il est même honteux de dire ce que ces gens font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté devient lumière. Ainsi, j'essaie d'expliquer ce passage. Le verset 12 amène la honte. C'est une honte rien que de parler de ces choses que les gens font en secret. Le sens premier est juste, mais le sens complet de ce passage, c'est de dire, voyez-vous, vous devez condamner les choses que les pécheurs font, parce que en faisant cela, en les condamnant, vous amenez la honte dans le cœur du pécheur. Et si l'Esprit est à l'œuvre, au verset 13, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté devient lumière. Je me demande qui c'était, si c'était une personne qui a été utilisée comme un instrument de Dieu pour l'apôtre Paul, le passage que nous avons lu dans Romains 7, je me demande si c'était une personne qui lui a dit « Saul, tu es une personne pleine de convoitises. » Il s'appelait Saul à l'époque. « Parce que tu es plein d'ambition, de convoitises, et ton orgueil, ta fierté, le désir de la richesse, et la loi dit « tu ne convoiteras pas », je me demande si c'est Dieu qui a parlé directement à Paul ou si Dieu a utilisé une personne pour amener à la lumière ce qu'il faisait. Mais l'Esprit a œuvré et toutes choses ont été manifestées par Christ, par son Esprit qui est la lumière. C'est là le sens de ce passage. Non seulement nous démontrons la vie de Dieu, mais nous la reflétons également. Mais vous ne pouvez pas condamner tout le monde et reprendre tout le monde. Vous ne pouvez pas dire à chacun que tout ce qu'ils font, c'est péché. Non, bien sûr que non. C'est pour cela que, tout d'abord, sans aucun doute, ceci s'applique à la prédication de la parole et à la prédication de l'Évangile. Si c'est difficile de dire aux gens « Oh, vous êtes pécheurs, les choses que vous faites sont terribles. Et moi, j'ai fait ces choses également dans le passé. Ces choses sont une offense contre Dieu terrible. C'est une vie charnelle, pleine de matérialisme et d'égoïsme. C'est terrible. » Vous ne pouvez pas leur dire ceci. Ainsi, vous dites « Venez dans notre église, venez pour entendre la parole de vie. » Parce que c'est plus simple parfois quand ils l'entendent dans la prédication, si la prédication n'est pas dure. C'est plus facile parce que le prédicateur parle à beaucoup de gens, non pas simplement à une personne, et par l'œuvre de l'Esprit, ceci peut être appliqué dans leur cœur, individuellement. Ceci, c'est la responsabilité en premier de la prédication, oui. Ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dans toute votre prédication, amenez ces choses à la lumière. Il faut qu'il y ait la prédication de l'Évangile pour persuader les pécheurs, pour leur montrer leurs besoins de Dieu et la miséricorde de Dieu, l'aide de Dieu qu'ils peuvent obtenir. Ainsi, ces choses qui sont amenées à la lumière les rend honteux. Ils sont convaincus de péché dans leur cœur par la lumière de Christ. Et les gens sont amenés à la repentance. C'est là la signification des versets 11, 12 et 13. Non seulement nous démontrons la lumière dans notre vie, mais nous parlons de la lumière également. Et par la bénédiction de Dieu, il nous donne l'occasion de trouver une manière de parler au cœur et de montrer aux gens de manière générale qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de la miséricorde de Dieu, de son pardon, du pardon de Christ. Et ceci amène les choses à la lumière. Mais j'aimerais continuer rapidement avec le verset 14 et le verset 15. Verset 14 est basé probablement sur Ésaïe 60, verset 1. C'est pour cela qu'il est dit. Qui dit ceci? Et où? Quelle est la citation? Probablement Ésaïe, chapitre 60, verset 1. Mais l'idée ici, c'est que c'est l'Évangile qui dit ceci. La lumière de Christ dit ceci. C'est pour cela qu'il est dit. Christ, dans l'Évangile, dit ceci. Ce n'est pas une citation directe. Christ qui dit « Réveille-toi, toi qui dors, âme qui dors, et relève-toi d'entre les morts, cette condition de mort, et Christ t'éclairera, te donnera la lumière, la compréhension. » Voyez-vous que tous ces versets vont ensemble. Ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, et en vous dissociant de ces choses, vous avez un témoignage. Et alors que le Seigneur vous donne l'occasion, vous montrez aux gens le besoin du pardon et le problème du péché. Et l'Évangile, au verset 14, ceci parle du témoignage pour Christ et de la démonstration de la lumière de Christ dans notre vie qui parle également. Et nous reflétons ce message également, et nous parlons de ce message. Et au verset 15, prenez donc garde à vous conduire avec circonspection, d'une manière précise, méticuleuse, c'est là la signification du terme grec d'origine. Avec circonspection, en regardant tout autour de vous, en veillant, avec soin, gardez la loi morale et soyez bons, pleins d'amour, soyez sincères. Parlez alors que vous avez l'occasion de parler de Christ, non pas comme des insensés, en négligeant la méditation personnelle, en perdant de vue votre but dans la vie de le représenter et de faire connaître Christ, en vivant uniquement comme les gens mondains, comme si mon but dans la vie, ce n'est que simplement pour être prospère, d'avoir une famille heureuse, ceci est en passant. Mais mon but seul et principal, c'est de faire connaître mon Sauveur, de le représenter, de marcher avec lui. Prenez donc garde à vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des personnes sages. Et au verset 16, ces paroles extraordinaires, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps. Quel verset que celui-ci! Les croyants peuvent illuminer ce qui est autour d'eux. C'est là mon prochain point. Racheter le temps. Ceci peut être pris dans ce sens-là. Utilisez correctement tout votre temps. Racheter le temps, ou c'est comme le terme de rédemption. Faites bien attention à votre temps. Et ce serait très intéressant d'avoir une prédication sur le bon usage du temps. C'est l'un des sens de ce verset. Mais il y a également un autre sens de ce passage, qui est plutôt le sens que l'apôtre Paul a à l'esprit ici. C'est racheter le temps. Mettez à part un certain temps. Tout le temps? À tout moment? Oui, c'est là le premier sens, mais également ce deuxième sens, le temps dans lequel vous êtes, cette occasion de vie, de service, peut-être que c'est plus clair si je l'exprime différemment. La situation actuelle, racheter le temps, le moment. Comment est-ce que nous savons que l'apôtre Paul parle spécifiquement de ceci? Parce qu'il dit « car les jours sont mauvais ». Et cela signifie la période actuelle est un temps difficile, particulièrement mauvais. Et nous pouvons le racheter, nous pouvons racheter notre temps. Est-ce que vous êtes étudiant? Le verset vous parle à vous. Rachetez le temps en tant qu'étudiant. Le temps dans lequel vous êtes, le temps d'étudiant. Vous avez des occasions toutes particulières pendant ce moment-là. Les gens autour de vous sont plutôt ouverts. Peut-être qu'ils sont hostiles, peut-être qu'ils sont difficiles. Mais ils sont dans ce moment de leur vie où ils sont dans un moment de questionnement. Et vous avez cet accès. Très rapidement, vous allez entrer dans le monde professionnel et vous serez peut-être dans un bureau tout seul ou avec une ou deux autres personnes. La vie passe vite. Oh, peut-être que vous n'aimez pas que je dise ceci, mais en tant qu'étudiant, la vie va plutôt lentement, à 50 km/h. Et quand vous entrez dans la vie professionnelle, ça va plus vite, à 90 km/h. Et vous avez moins d'occasions de témoigner pour Christ, vous avez moins de gens autour de vous. Et vous vous dites, oh, si seulement j'avais utilisé mon temps mieux, mon temps d'occasion toute particulière quand j'étais étudiant, j'avais accès à toutes sortes de personnes de mon âge, et j'avais toutes sortes d'occasions. C'est là ce que l'apôtre Paul veut dire ici, racheter le temps dans lequel vous êtes, cette occasion que vous avez en ce moment même. Racheter le temps pour l'Évangile. Et nous pourrions faire une liste de ces choses. Racheter le temps pour l'Évangile, pour le service pour le Seigneur. J'ai mentionné ceci la semaine dernière, en 1990, je suis allée à Moscou pour prêcher à des pasteurs baptistes qui ont été libérés de prison, parce que c'était le moment de la perestroïka, et ils étaient enfin libres. Et ainsi, ils se sont rassemblés. Mais il y a quelque chose qui m'a impressionné profondément. Et parce qu'il y avait plus d'occasions, les croyants à Moscou avaient commencé à vendre des livres dans l'entrée et la sortie du métro à Moscou. Vous ne pouviez pas faire ceci ici, dans ce pays, mais à Moscou, c'était possible. Il n'y avait aucune loi pour les arrêter de faire ceci, et ils ont utilisé l'occasion. Ils avaient des tables de littérature, et il y avait des queues et des queues de gens qui, auparavant, n'avaient pas accès à des livres spirituels. Et ainsi, ensuite, ils ont ouvert des librairies, des bibliothèques, et les gens empruntaient des livres, et pendant des semaines et des semaines, qu'est-ce qu'ils faisaient? Oh, ils ont entendu la parole de l'apôtre Paul, qui leur disait « rachetez le temps ». Utilisez cette occasion toute particulière que vous avez, et c'est là ce qu'ils ont fait, et c'était merveilleux, j'étais impressionnée. Et pendant quelques mois, ils ont pu faire ceci, avant qu'ils ne soient rejetés, et que quelqu'un réalisait dans les autorités ce qu'ils faisaient, et quel effet ceci avait sur la population. Et ils ont interdit ces choses après. Mais c'est là le sens de ce terme, racheter votre temps, votre circonstance, vos occasions. Quand le Seigneur va vous reprendre et que nous allons repenser à notre vie, il nous a mis dans un endroit. Il nous a placés là et vous pouvez racheter le temps là, dans cet endroit. De tant de manières en tant que croyant. Peut-être que vous êtes malade, peut-être que vous êtes à l'hôpital. Et à présent, nous nous disons en tant que chrétiens, rachetez le temps. Qui est autour de moi? À qui est-ce que je peux parler? Qui est-ce que je peux aider, encourager spirituellement? C'est là ma place, c'est là un temps pour moi, un moment qui m'a été donné, où je suis entouré de gens malades, peut-être de gens déprimés, découragés, et je peux racheter le temps dans cette occasion-là pour le Seigneur, et je peux refléter la lumière et la vie de Christ. Peut-être que je suis âgé et je vieillis, et j'ai moins de facultés, je suis plus faible, et dans mon cercle de famille, est-ce que je vais murmurer, me plaindre, alors que j'ai des petits problèmes ici et là? Où est-ce qu'ils vont voir un chrétien dans sa vieillesse qui est reconnaissant? C'est là mon occasion. Dans ma santé, c'était différent. À présent, c'est dans la vieillesse, dans l'infirmité, dans la faiblesse. Est-ce que je vais racheter le temps pour le Seigneur? C'est là le sens de ce passage dont parle l'apôtre Paul. Racheter le temps. Peu importe où vous êtes et votre situation. Pour l'instant, on peut avoir un programme télévisé, non pas sur la BBC ou des chaînes bien connues, ce n'est pas possible, mais on peut avoir un programme télévisé sur une chaîne peu connue. Et qui sait, peut-être qu'un jour, tout le témoignage chrétien qui est sur Internet ou à la télévision sera interdit. Je pense que le moment vient où ce sera plus difficile, mais utilisez l'occasion alors que vous pouvez représenter Christ aujourd'hui. Rachetez le temps. Ainsi, vous dites, au temps de l'apôtre Paul, c'était un temps terrible, difficile. Il y avait le nationalisme juif. Ils étaient si nationalistes. Si vous disiez, oh, nous allons vers les non-juifs, ils disaient, tuez-le, lapidez-le, il n'est pas digne de vivre. Prêchez l'Évangile dans l'Empire romain. Et les Romains entendaient, non, vous ne pouvez pas faire ceci, Les Romains étaient polythéistes, ils n'acceptaient pas. Vous pouviez prêcher chez les non-juifs et disaient « Nous sommes polythéistes, nous n'acceptons pas l'évangile de un seul Dieu parce que ceci est contre toutes nos idées et nos superstitions et notre idolâtrie. Rejetez-les, loin du temple !» Les chrétiens étaient rejetés. C'était un temps difficile et terrible pour les chrétiens, tant de persécutions, tellement difficile, et un temps tellement immoral, si immoral. L'apôtre Paul dit « Vous pouvez racheter le temps. » Satan pense qu'il a aveuglé tout le monde dans les ténèbres, mais par la puissance de Dieu, là où il vous a placé, vous pouvez racheter le temps pour le Seigneur et en faire non pas un temps de mort et de ténèbres, mais un moment de lumière, de salut, de compréhension pour ceux qui seront sauvés. C'est là le sens de ce verset. C'est extraordinaire pour les chrétiens. Je peux racheter le temps là où je suis placé. Je peux racheter le temps, moi, là où je suis placé. Oui. Et le Seigneur va nous aider en cela. Et la conclusion au verset 17, « C'est pourquoi ne soyez pas sans prudence, sans réfléchir, en abandonnant tout, en pensant que c'est sans espoir, en ne prêchant pas l'Évangile, en ne témoignant pas. C'est pourquoi ne soyez pas sans prudence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur pour vous. » C'est un passage merveilleux.